suite dans les idées, Sylvain Bourbon. Entre le 21 et le 23 avril 2006, soit 12 ans après le génocide des Tutsis, une importante association de rescapés, accompagnée de conseillers en traumatisme et d'un professeur de psychologie clinique à l'université du Rwanda, a proposé à une centaine d'orphelins de l'est du pays d'écrire son histoire d'enfants rescapés. La majorité de ces enfants avaient entre 8 et 12 ans au moment du génocide, entre 20 et 24 ans au moment de la rédaction de ce qu'ils considèrent comme leur livre. L'historienne Hélène Duin a mis la main sur cet ensemble de cahiers 10 ans plus tard, les a traduits ou co-traduits puisqu'elle maîtrise la langue kinyarwanda, et à partir de ce matériau exceptionnel, elle a conçu Sans ciel ni terre, un très grand livre de montage, un peu à la manière de Svetlana Alexeyevitch. Hélène Duin est ce samedi l'invitée de la suite dans les idées. Alors Svetlana Alexeyevitch est journaliste et elle recueille des propos oraux, c'est pas tout à fait la même technique. C'est une journaliste aussi qui a l'habitude de recueillir des témoignages d'événements historiques importants, qui nous rejoindra en seconde partie d'émission, c'est Maria Malagardis. Mais avant ça, bonjour Hélène Duin.
Bonjour Sylvain Bourbon.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, au Centre d'Histoire du Temps Présent, et vous publiez aux éditions La Découverte, dans cette nouvelle collection, à la source, ce livre, Paroles orphelines du génocide des Tutsis. Si c'est le sous-titre. Et comme je le disais, en fait, ce livre est construit autour d'une source, d'un matériau vraiment extraordinaire que vous avez eu la chance de trouver parmi de très nombreuses archives, pas classées, un peu par hasard, si j'en crois le récit que vous en faites, et que vous avez mis du temps et beaucoup de minutie à lire, à traduire, à saisir, et ensuite à composer pour restituer ces témoignages qui sont extraordinairement précieux pour comprendre ce qui s'est passé. Comment, peut-être, vous pourriez nous dire comment vous êtes tombé sur ces archives ?
Mais complètement par hasard, puisqu'il faut savoir que la plupart des fonds d'archives au Rwanda ne sont pas classés, ne sont pas inventoriés, et donc c'est à la fois un grand problème, puisque effectivement ça prend beaucoup de temps aux chercheurs pour déambuler dans ces masses d'archives, mais en même temps ça nous laisse aussi une grande liberté, et la liberté de pouvoir faire des rencontres. Comme celle que j'ai faite avec ce corpus absolument extraordinaire de 105 cahiers d'orphelins qui ont été rédigés, donc vous l'avez dit, en 2006 à l'initiative donc de l'association AVEGA, l'association des veuves du génocide d'avril, qui est une ONG rwandaise, c'est très important de le souligner, une ONG de rescapés du génocide. C'est donc des rescapés qui s'adressent à d'autres rescapés dans une période très particulière, puisque ces textes ont été rédigés en avril, et avril au Rwanda, c'est la période de commémoration. Donc voilà, ce désordre des archives permet ce type de rencontre aussi au Rwanda, dans ces masses de papiers.
Ce qui est intéressant aussi, c'est l'homogénéité de ces témoignages, dans le sens où ces enfants viennent de la même région du pays. Ils ont pas tous le même âge, mais disons c'est resserré quand même autour d'un certain âge. Et du coup, ça offre et ces récits ont été rédigés sur une période extrêmement courte, quelques jours. Donc ça donne une cohérence d'ensemble qui, du coup, en fait un matériau unique, beaucoup plus intéressant peut-être que des textes épars que vous auriez pu trouver ici ou là.
Tout à fait, parce que ces enfants donc sont originaires de la nouvelle entité qui est la province de l'Est. Depuis 2006, il y a eu un grand bouleversement toponymique et administratif au Rwanda, et donc recouvre plusieurs préfectures de l'Est du pays. Et c'est une région qui a été très peu étudiée donc dans son rapport au génocide. Donc ça permettait d'ouvrir sur une région sous-étudié par la littérature consacrée au génocide des Tutsis, et effectivement une forme d'homogénéité parce que les récits se croisent et ça permet également de en croisant les sources de pouvoir repérer des dynamiques communes pour chaque colline, chaque secteur et chaque commune ensuite dans lesquelles habitaient ces enfants en 1994. Et ça permet aussi de repérer dans cette région où le Front patriotique rwandais est arrivé relativement rapidement, puisque à la fin avril, la région était prise par les troupes du Front patriotique rwandais, eh bien, ça permet de repérer l'extrême rapidité des massacres, puisque, ils ont eu lieu en quelques semaines.
Alors, ces cahiers, ces enfants semblent très fiers de ces cahiers. Pour eux, alors c'est un exercice qui est pas évident. Les écritures varient. Certaines, dites-vous, sont plus fluides que d'autres. Vous vous êtes vraiment plongé dedans. Vous avez pour ça appris la langue de façon à être capable de participer à la traduction. Vous vous êtes fait aider. Mais vous avez, je pense que ça aurait pas été possible autrement. Il fallait avoir cette proximité au lexique, à la syntaxe pour véritablement comprendre ces textes.
Tout à fait. Et la première proximité qu'il fallait avoir, je pense, c'était une proximité avec la matérialité de ces cahiers, avec la graphie. Puisqu'à travers la graphie s'exprime aussi l'investissement affectif que les jeunes gens, les jeunes scripteurs ont investi justement dans leur écriture. Donc ça, c'était extrêmement important pour moi de les voir, de les toucher, de les voir. Et puis aussi, la graphie permet de repérer les temps de l'écriture où celle-ci devient trop difficile, puisque dans certains cahiers, elle s'arrête brutalement. Et puis elle reprend ensuite. Donc il y a aussi dans l'écriture même, dans la matérialité de la graphie, quelque chose de ce processus d'écriture qui est un processus d'écriture où le génocide revient au présent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on peut pas aborder ces textes sans comprendre qu'ils se revivent dans l'écriture comme des enfants, 12 ans avant. Le décalage temporel. Voilà,
ils ont 20 ans, ils écrivent, et à propos de quand ils avaient 8 ans.
Voilà, et ils ont de nouveau 8 ans lorsqu'ils écrivent, ou 12 ans. Ils sont comme figés dans leur enfance par l'expérience du génocide et ensuite par l'investissement dans l'écriture.
Alors ce qui est très impressionnant dans la manière dont vous avez organisé le livre, c'est que vous citez énormément d'extraits de ces cahiers. Peut-être on aura l'occasion de vous entendre en lire tout à l'heure, mais vos commentaires sont d'une grande sobriété. Ils visent à donner le contexte, à souligner tel ou tel trait, à mieux faire comprendre à nous lecteurs qui n'avons pas eu l'expérience de la lecture directe des documents. Mais il y a une forme d'équilibre. Et vous avez très simplement, et je voudrais qu'on reprenne ce déroulé, construit le livre autour de trois temps qui sont avant, tout simplement, pendant et après. C'était d'ailleurs la structure de la plupart des récits.
Oui, c'était la consigne qui avait été donnée par Avega, par l'association, pour tenter de construire un récit qui soit chronologique. Donc je me suis appuyée sur sur ces scansions temporelles, même si on le voit d'ailleurs dans les témoignages, elles sont souvent subverties. Et d'ailleurs, dès le premier chapitre, en fait, sur la vie d'avant, c'est une vie d'avant idéalisée par la réverbération puissante de la disparition. Et la vie d'avant, c'est aussi l'école et la discrimination. Donc c'est le temps du génocide innerve en fait le temps d'avant et surtout le temps d'après.
Et la partie centrale est la plus volumineuse du livre, en fait, parce que je pense qu'il y avait aussi énormément de matière et de choses compliquées à comprendre. Si on commence par l'avant, vous le disiez, ça concerne le contexte familial. On est dans cette région de l'Est, on est dans la campagne, on est auprès de gens qui vivent de l'agriculture pour la plupart d'entre eux, qui vivent au sein de familles très grandes, puisque c'est à la fois les parents, les frères et sœurs, mais aussi les cousins proches, et tout ça est une famille. Mais peut-être est-ce lié aussi à la suite, comme vous le disiez déjà, la figure du père comme une figure qui ressort de façon très très vive de ces récits.
Oui, et on ne peut pas comprendre la présence de ces figures des pères, je vais les utiliser au pluriel.
Oui, ils en ont souvent plusieurs. Oui,
parce que c'est le père et les oncles paternels. Voilà, les structures familiales sont très élargies et ce qui aussi permet d'appréhender l'immensité des pertes familiales, le génocide. C'est des fratries extrêmement nombreuses. Voilà. Donc les pères sont au cœur des récits, souvent des récits de fillettes en particulier, parce que précisément les hommes ont été visés de manière très particulière pendant le génocide, au titre de combattants fantasmés du Front patriotique rwandais, et aussi parce que les enfants l'expliquent ensuite, les pères dans les premiers jours du génocide, ont pu être guidés par le souvenir des violences antérieurs et tenter de protéger leurs troupeaux. Et ils s'exposaient en se faisant à un danger beaucoup plus grand de la part des ibiteros, des groupes d'assaillants sur les collines. Donc cette figure du père, elle est centrale, et elle est centrale aussi puisque l'immense majorité des descripteurs du corpus ont perdu leur père. Certains ont pu retrouver leur mère, mais je crois que sur les 105, il n'y en a que deux qui ont pu retrouver un père survivant.
Même si au plan global, il ne faut pas l'oublier non plus, la majorité des victimes de ce génocide étaient des enfants.
Oui, alors c'est la singularité aussi de la configuration rwandaise. Un génocide, en tout cas c'est ce qu'on voit, je pense qu'on perçoit à travers ces témoignages, il vise avant tout la rupture de la filiation, et plus encore que la rupture, son saccage. Et ça, je pense que dans les pratiques de cruauté, c'est tout à fait perceptible. Donc les enfants sont, pendant le génocide des Tutsis, la majorité des victimes. Mais la structure démographique de la société rwandaise, qui est extrêmement juvénile,
fait que c'est aussi la majorité des survivants.
Voilà. Ouais. Et donc les enfants sont des acteurs centraux, à la fois de la politique génocide et des politiques du désastre dans l'après-coup.
Vous disiez tout à l'heure l'importance dans les mémoires de situations antérieures, des années 60, qui restaient dans les mémoires de certaines familles, beaucoup d'entre elles, probablement. Et en fait, on s'aperçoit en lisant les témoignages qu'il y a une histoire feuilletée de beaucoup de couches. Alors par exemple, on se rend compte à propos de l'école que ce génocide qui s'est produit d'une façon soudaine et qui a duré peu de temps, quand on rapporte au nombre de victimes, en fait, on le voit se préparer dans les années qui précèdent, si on regarde ne serait-ce que les classes, les écoles et la façon dont ces élèves sont traités à l'école, assignés à leur catégorie raciale, comment ce racisme institutionnel se met en place, Hélène Dumas.
Dans les textes, les enfants racontent qu'ils se voient assigner cette identité raciale par l'école.
Et
on leur demande de remplir une case parce qu'il y a des contrôles de quotas dans la société rwandaise pour empêcher que les Tutsis ne prennent trop de place dans l'univers scolaire, et en particulier l'accès à l'école secondaire est extrêmement restreinte pour les Tutsis. Et c'est pour ça qu'il y a un enfant qui raconte que leur père leur apprenait des métiers parce qu'il savait très bien, ce père, que ses enfants ne pourraient pas accéder à des études après l'école primaire. Et donc c'est ces recensements ethniques très précis dans les classes qui font surgir pour ces enfants la question Hutu-Tutsi, parce qu'ils ne savent rien de ce qu'ils appellent les histoires d'ethnie. Et lorsqu'ils se lèvent malencontreusement avec la majorité, c'est-à-dire les Hutus, les instituteurs qui connaissent le maillage social des collines, souvent ont des réactions assez violentes et demandent à ces enfants d'aller demander à leurs parents qui ils sont. Et c'est à partir de cette question « Papa ou maman, qui sommes-nous ?» Hutu ou Tutsi, que les parents révèlent le récit des violences passées.
Il y a ça, et puis il y a les années antérieures qui sont celles de la guerre, qui commence en 1990 avec l'offensive du FPR. Et donc, en fait, on s'aperçoit que ces enfants ont commencé de vivre dans un climat de violence qui est antérieur à ces jours de violence paroxystique du génocide d'Hélène Dumas.
Oui, ils ont, à partir de 1990, d'ailleurs, le chapitre sur les enfants sans guerre s'ouvre sur la phrase d'un garçon qui dit « Pour moi, le génocide a commencé en 1990 ». Donc, dans ces temporalités subjectivées, il y a aussi ça renvoie aussi à une réalité historique, puisque à partir de 1990 et la première offensive du Front patriotique rwandais par l'Est, justement, les Tutsis vont progressivement devenir, aux yeux des autorités, mais aussi des voisins, suspects, et y compris des camarades de classe, hein, c'est ce qu'elle raconte également, suspects de complicité naturelle, innée, raciale, hein, sont suspectés d'avoir une complicité, voilà, vraiment ontologique avec le Front patriotique rwandais. Et les enfants racontent de quelle manière les militaires investissent les domiciles, cherchent des armes, des correspondances avec le FPR, ce qui, voilà, des recherches qui s'avèrent infructueuses, mais ce harcèlement constant des familles tutsis sur les collines, ils en sont les témoins au premier chef, et c'est ce qu'ils racontent dans leur récit.
Et puis un jour arrive donc le 6 avril 1994, jour durant lequel l'avion du président rwandais, Habyarimana, est abattu. Alors, beaucoup de gens, depuis, nous expliquent que c'est le déclencheur absolu, que c'est la cause du génocide rwandais. On voit très vite, en lisant quelques-uns de ces récits, à quel point ce type d'explication est un non-sens. Et en même temps, on voit aussi que ce 6 avril, cette nouvelle, n'a pas été sans effet sur les visages des parents de ces enfants.
Oui, le 6 avril, pour certains qui ont pu entendre, par exemple, je pense aux enfants de la région du Bugesera, qui n'est pas très éloigné de Kigali, et qui ont pu entendre la déflagration, se posant des questions sur ce qui s'était produit. Eux ont la nouvelle très rapidement. Dans d'autres communes également, qui étaient dirigées par des bourgmestres extrémistes, je cite le cas de Murambi, dirigé par Jean-Baptiste Gatété, la violence a été immédiate dès le 6 avril au soir. Mais pour la plupart des autres scripteurs, c'est le 7 avril au matin que l'on apprend la nouvelle de la mort du chef de l'État. Et effectivement, pour les parents, ça provoque une inquiétude extrême. Et ce que voient les enfants, ce qu'ils perçoivent, c'est évidemment la tristesse et cette frayeur sur le visage
qu'ils n'avaient jamais
adultes.
Vu auparavant. Enfin, c'est ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire que jamais ils avaient vu leur père être aussi inquiet, alors qu'il leur paraissait solide.
Tout à fait. Il y a une enfant qui dit « Mon père, je l'avais toujours cru invincible. » Et l'effondrement du père, c'est ce qui va provoquer la peur de la fillette. Elle va pas interpréter directement un événement qui s'est produit à Kigali. Kigali, c'est loin pour ces enfants des collines de l'Est du Rwanda.
Oui, voilà. 10 ans, en plus, et qui sont peut-être encore très éloignés de la politique.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment à travers l'attitude, la frayeur qui se peint sur le visage des adultes que ces enfants vont peu à peu interpréter la menace.
Peu à peu, mais ça va vite.
C'est-à-dire
que, en fait, les adultes qui, eux, sont en mesure de comprendre ce que ça peut signifier en termes de conséquences, se préparent en quelque sorte, essaient d'anticiper sur la base de ce qu'ils savent, de ce qui s'est passé autrefois en particulier.
Oui, c'est le savoir antérieur qui va guider les premières stratégies de fuite des familles. Mais ces stratégies de fuite, elles vont se révéler très souvent, elles vont se transformer en pièges. En réalité, puisque, par exemple, une des premières injonctions, une enfant raconte que sa grand-mère lui dit « Mais en 59, on est allé se réfugier dans les églises. Jamais les tueurs n'oseront pénétrer la maison de Dieu. Allons nous réfugier à Nyarubuye. »
Parce qu'ils ont tous la même religion. Ils sont tous chrétiens.
Chrétiens à 90%, catholiques à plus de 60%. Donc, c'est les tueurs aussi sont catholiques, pris dans les mêmes églises. Voilà, ça fait aussi partie de cette proximité entre les tueurs et les victimes. Donc, il est impensable pour des catholiques que d'autres catholiques viennent les attaquer dans la maison de Dieu. Voilà. Donc, ces premières stratégies de fuite sont les fuites dans les églises et également je l'ai dit tout à l'heure, mais certains hommes ne n'entendent pas se faire rasier leur troupeau et partent donc tenter de protéger leurs vaches et à ce titre se font assassiner très rapidement également.
Alors les animaux justement, la cruauté, elle s'exerce d'abord peut-être pour commencer à l'endroit des animaux. Les animaux qui sont très respectés, ces vaches, elles ont des existences individuelles, singulières dans ces familles. Et là, soudainement, peut-être c'est aussi un des premiers signes, on les abat froidement. Ça revient dans ces récits à plusieurs reprises.
Oui, les vaches sont anthropomorphisées à la fois par les victimes, ils sont attachés affectivement de manière très forte, et par les tueurs. Il y a beaucoup de témoignages qui racontent que les tueurs couraient après une vache en disant « cette vache est tutsi ». Voilà, donc il y a une forme d'anthropomorphisation des vaches et pour les rescapés, pour ces enfants qui sont aussi parfois des bergers très souvent, qui s'occupent des troupeaux familiaux, ils sont très attachés à leurs animaux et ils ne comprennent pas le sort que les tueurs leur font subir et si vous voulez les vaches, ces animaux là, eh bien sont comprises dans les victimes du génocide pour ces enfants.
Alors, pour ces enfants, ça veut dire aussi très vite changer de vie quotidienne, c'est-à-dire aller se cacher, sortir du village surtout. Et ça aussi, la description de l'environnement, la peur associée à certains des paysages frappe à la lecture des récits.
Oui, il m'a semblé important de restituer les écosystèmes de la survie, dans quels endroits tentent de se réfugier, de se cacher ces enfants. Et en particulier, il y a beaucoup de passages sur les marais dans les récits des enfants qui ont survécu dans le Bouguessera et puis près de la Kagera. Les marais sont des étendues très très importantes, mais aussi très touffues. Et on imagine pour des enfants donc de petite taille ce que peut représenter de s'immerger ainsi dans des marais de papyrus ou de canne à sucre pendant plusieurs jours dans une eau croupie salie par le sang aussi des personnes qui ont été tuées. Et donc ces expériences physiologiques du génocide. Eh bien, on peut les approcher que par ce type de témoignage extrêmement précis sur ce que les enfants disent de ce qui est fait à leur corps. C'était aussi très intéressant de repérer les mentions de la faim. Comment est-ce qu'on se nourrit dans un marais, dans un champ de sorgho, en grimpant un arbre. Et parce que le temps très bref du génocide ne convoque pas immédiatement cette image de la faim. Or, pour des enfants, passer plusieurs semaines sans se nourrir, c'est quand même très très grave sur le plan physiologique et aussi psychique. Et donc, ces textes permettent de décrire très finement ce que fut l'expérience du génocide d'un point de vue physiologique.
Alors, il y a aussi évidemment des récits d'enfants qui ont été témoins de violences insoutenables.
La plupart des scripteurs ont assisté à la torture et à la mise à mort de leurs parents. Et surtout de leur mère, puisque souvent les enfants ont fui avec les mères. Et l'un des premiers impératifs, si vous voulez, de l'ordre génocide, c'est de garder les victimes dans l'entre-soi des frontières vicinales. Et je pense que cette modalité particulière de l'organisation du génocide explique que les enfants, très souvent, ont assisté à la mort des adultes, de leur mère ou de leur père, ou de leurs frères et sœurs. Et ce qui est très saisissant, c'est que ces textes sont absolument non filtrés par aucune convention de pudeur. Voilà, ils sont décrits de manière extrêmement brute et rendant transparente la violence inouïe qui a été faite, inscrite sur les corps des victimes. Et c'est une violence qui n'est pas du tout anomique. Au contraire, c'est une violence qui est signifiante, puisqu'elle est liée à un système de représentation raciste. Par exemple, certains enfants expliquent pour la question du viol qu'ils ont entendu très souvent les tueurs dire « allez goûter le sexe des femmes tutsi ». Voilà. Donc cette violence, elle est l'inscription du racisme dans les corps des victimes. Et elle est restituée comme telle dans les textes des enfants avec une précision implacable.
Et c'est probablement le fait d'avoir été témoin de ces violences qui font dire et écrire à ses enfants qu'ils sont morts eux aussi.
Oui. Ils sont souvent, il y a une expression qui revient en Kinyarwanda de manière générale dans les témoignages de rescapés adultes ou enfants, c'est Baratouiche. Baratouiche, c'est ils nous ont tués. Et eux aussi sont morts, et ils le disent souvent, ils utilisent l'expression de je suis revenu à la vie. Et là c'est aussi, ça pose la question de la traduction. Si on voulait l'écrire en bon français, on aurait dit j'ai repris conscience, parce qu'en fait, c'est voilà. Mais je voulais garder les expressions idiomatiques au plus près du Kinyarwanda, parce qu'il me semble que dans ces cas-là, précisément, quand il s'agit de revenir à la vie après avoir reçu des coups ou avoir été submergé par les cadavres de sa propre famille, cette expression, elle avait un sens littéral. Voilà. Et oui, ils sont morts parce que la proximité... Ils expliquent qu'ils sont morts parce que la proximité avec la violence et ensuite avec les corps, y compris les corps en décomposition, est très forte. Et donc ça participe de leur propre mise à mort avant de revenir à la vie.
Alors ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont revenus à la vie au moment où ils écrivent ces textes, puisque c'est 12 ans plus tard, et la dernière partie du livre est consacrée à l'après, à la vie après le génocide. Peut-être vous pouvez nous lire... Hélène Dumas, un extrait de l'un de ses cahiers.
Oui, c'est un jeune homme, qui écrit cela donc en 2006. Par exemple, quand tu tombes malade à l'école, on t'apporte de la pâte, donc de la pâte de manioc ou de maïs. Et quand un autre élève qui a encore sa famille tombe lui aussi malade, sa famille lui apporte de bonnes choses. Cela fait que je me sens différent des autres, que je me sens maudit. Tout cela me dépasse, je suis désespérée. Je sens qu'il serait mieux que je meure au lieu de rester sur cette terre. Le génocide m'a laissé beaucoup de séquelles. Quand vous voyez mon visage, on croit que je suis sain. Pourtant, mon cœur est une pourriture puante et ma tête est comme morte.
Hélène Dumas, Sans ciel ni terre, c'est le titre de votre livre sur ces récits d'orphelins du génocide des Tutsis. On en parle en deuxième partie d'émission, en dialoguant avec la journaliste Maria Malagardis. C'est après un extrait du nouvel album de Tricky.
Dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Hélène Dumas, Sans ciel ni terre, Paroles orphelines du génocide des Tutsis 1994-2006. C'est un livre qui paraît aux éditions La Découverte dans la collection À la Source. Nous sommes en ligne avec Maria Malagardis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération, où vous suivez différents sujets internationaux, là en l'occurrence de retour d'une situation terrible à Lesbos, mais vous avez suivi le Rwanda, ce génocide, au moment du génocide, et puis vous n'avez cessé d'y retourner depuis pour travailler sur la mémoire, l'histoire, la façon dont les choses ont évolué, essayer de comprendre aussi tout ça. Très tôt, vous avez d'ailleurs, en 1995, publié un livre de récits de témoignages, Mariam Lagardis. Comment est-ce que dans tous ces reportages que vous avez menés au Rwanda toutes ces années, vous avez eu l'occasion de parler non pas forcément à des enfants, mais à des anciens enfants du Rwanda?
Oui, oui, absolument. Et la question des enfants a toujours été cruciale dès le moment du génocide. Hein. Moi, j'ai couvert aussi le génocide en 94. Évidemment, parce que il y a toujours cette figure de l'innocence absolue. Je veux dire, à partir du moment où on déclare que les enfants doivent être mis à mort, on touche au point le plus suprême de l'abomination. Et il se trouve que pour les 20 ans des commémorations du génocide à Libération, nous avions choisi de faire un événement autour du fait d'avoir 20 ans donc au moment de ces commémorations. Et donc j'avais justement, j'étais allée trouver un certain nombre de jeunes pour qu'ils me racontent l'expérience qu'ils avaient vécue pendant le génocide. Et c'est des choses que je retrouve dans le livre absolument fascinant d'Hélène Dumas, c'est-à-dire que notamment le passage qu'elle a lu tout à l'heure, où justement ce jeune homme dit « quand vous me voyez comme ça, vous avez l'impression que je suis normal ». Et ça, c'est une expérience à laquelle on est constamment confronté quand on réveille ces mémoires d'enfant, c'est-à-dire qu'on se trouve face à un adolescent ou une adolescente, enfin un jeune homme ou une jeune fille à 20 ans, on est entre l'adolescence et l'âge adulte, on va dire, qui en apparence peuvent avoir l'air tout à fait normal, ressembler à tous les jeunes du monde, avec des baskets, des jeans, un smartphone dans les meilleurs des cas, enfin bon, des centres d'intérêt qui sont ceux de tous les jeunes. Et puis dès qu'on, finalement, on commence à essayer d'ouvrir cette porte secrète de la mémoire, surgissent alors des tas de choses qui non seulement n'ont jamais été oubliées, mais en réalité sont toujours là d'actualité. Et c'est peut-être d'ailleurs la particularité de ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, où finalement on vit, si je pouvais employer ce néologisme, dans un présent antérieur permanent. C'est-à-dire que l'événement de 94, je suis sûr qu'Hélène Dumas sera d'accord avec moi, et d'ailleurs son livre va dans ce sens-là, l'événement de 94 non seulement hante encore les esprits, mais explique tout. Il y a eu ce moment apocalyptique, et en fait tout ce que des générations de jeunes Rwandais peuvent vivre aujourd'hui découle de ça, même si ce pays s'est miraculeusement relevé économiquement, et que aujourd'hui, quand on est à Kigali, il est assez difficile de voir les traces visibles de ce qui s'est passé. Les esprits sont encore marqués par ça, et toutes les politiques suivies sont évidemment dépendantes de ça. Donc cette question de l'enfance, elle est évidemment cruciale.
Présent antérieur, disait Mariam Lagardis.
Je ne peux que souscrire à ce terme, à cette manière d'aborder le rapport du Rwanda actuel à son histoire. Le génocide des Tutsis est véritablement un événement matriciel. Et Mariam Lagardis a raison de souligner que ce Rwanda d'aujourd'hui est né des ruines de 1994. Et je voudrais, pour illustrer de manière un peu macabre, hélas, cette idée de présent antérieur, de ce présent toujours vivant du génocide, dire que il y a quelques jours, des fosses communes ont été retrouvées près du lac Mugesera, donc dans l'est du pays, contenant des dépouilles de 7 à 800 victimes du génocide. Il y a dans le livre, et je crois que Maria aussi connaît cet endroit, une photo de Kabuga, qui est dans la banlieue de Kigali, où en avril 2018, ont été mises au jour un certain nombre de fosses communes. Donc, dans les paysages même, le génocide est toujours présent.
Maria Malgardis.
Mais moi ce que je trouve aussi très très intéressant dans ce livre et dans cette démarche, c'est que finalement, en donnant la parole aux enfants, facilite entre guillemets aussi la compréhension d'un événement qui en France, en tout cas d'une manière générale dans les pays occidentaux, reste encore aujourd'hui mal compris. C'est-à-dire, bien sûr, il est désormais totalement admis, c'était pas le cas dans les années qui ont suivi le génocide, mais il est désormais totalement admis par, on va dire, dans l'opinion publique, même si les négationnistes continuent à exister, mais ça c'est la règle des choses, il est admis qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Mais ce que recouvre ce terme génocide n'est pas bien compris, et je dirais même, parfois même, chez certains commentateurs dans les médias, qui, ne comprenant pas bien ce qui s'est passé, disent oui, il y a eu un génocide entre les Hutus et les Tutsis. Alors, un génocide, il n'y a pas eu un génocide entre les Juifs et les Allemands, il n'y a pas eu plus de génocide entre les Hutus et les Tutsis. Donc, on plaque le label génocide, ça, ok, d'accord, c'est admis, ça a été un peu long, parce qu'il y a aussi peut-être un racisme inconscient qui fait qu'on a du mal à admettre qu'une Shoah puisse se passer en Afrique, qu'on voit toujours d'une manière un peu caricaturale, comme un continent de ténèbres où les gens s'entretuent en permanence. On a du mal à penser ça, mais bon, maintenant, disons, le terme génocide, il est admis. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça recouvre? Et en donnant la parole à ces enfants, qui, comme le disait Hélène Dumas tout à l'heure, parlent sans filtre, là, on est vraiment confronté à la réalité, à la systématisation des tueries, à ce qui s'est passé avant, à comment ça a été préparé, et que ça n'a pas surgi de nulle part, même s'il y a eu un événement catalyseur le 6 avril, ça n'a pas surgi de nulle part, c'était déjà une politique raciste et une solution finale qui se préparait, et ça s'est dit avec des mots simples d'enfant, et s'il est parfois difficile pour les gens dans les pays occidentaux de s'identifier avec des drames qui ont lieu très loin, tout le monde, en revanche, peut s'identifier avec ce qu'a vécu un enfant, parce que nous avons tous été des enfants. Donc, je pense que le livre est d'autant plus utile qu'il permet de rendre plus compréhensible et sensible un événement historique qui a encore du mal à s'imposer dans toute sa complexité, sa cruauté et son horreur. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui, historiquement, est très important que toutes ces dimensions soient prises en compte.
Hélène Dumas, oui, cette matérialité au fond du génocide et cette sensorialité du génocide transparaît dans les récits que vous avez retenus. Et je pense que c'est très important ce que dit Marie Gardis, tant ce génocide a été recouvert et continue d'être recouvert de commentaires qui le réduisent, qui le politisent de façon étrange. Je veux dire, les révisionnistes continuent de parler de double génocide.
Bien sûr, et se voit l'épée de clichés au fond racistes. Hein. Je pense qu'il faut s'interroger sur notre propre racisme lorsqu'on regarde des événements africains qui pâtissent donc d'un certain nombre de présupposés, de clichés. Eh bien, j'espère en tout cas que la voix de ces enfants permettra de rapprocher le génocide des Tutsis d'un public qui le connaît encore mal. Et surtout, je pense que ce qui est très important, c'est que comme le disait Maria Malagardis tout à l'heure, génocide, c'est pas un label, c'est pas une abstraction. Ritipan a une définition extrêmement brillante du négationnisme. Il dit que la porte d'entrée du négationnisme, c'est l'abstraction. Voilà. Et je crois que une des manières, peut-être en seconde ligne, de lutter contre ce négationnisme, c'est de réinscrire l'histoire du génocide des Tutsis dans sa matérialité.
Maria Malagardis, ça veut dire aussi, et c'est l'une des pistes que vous avez suivies comme journaliste, d'être capable d'écrire les faits, tout simplement. Et ça veut dire mener des enquêtes, et ça veut dire essayer de traquer les responsabilités. Et tout n'a pas été encore fait aujourd'hui. Il reste un travail considérable à faire.
Oui, bien sûr. Il y a encore aujourd'hui non seulement un travail à faire sur les responsabilités, non pas tant au niveau du pouvoir génocidaire lui-même, parce que maintenant c'est assez bien connu, un certain nombre de responsables ont été condamnés par le tribunal international pour le Rwanda. Enfin bon, on vient d'en trouver en France. France, un supposé responsable qui se cachait en France, je parle de Félicien Kabouga, qui est considéré comme le banquier du génocide, qui avait échappé à la justice. Hein. Donc cette histoire, elle est toujours effectivement très vivante aussi de ce point de vue-là. Puis il y a les responsabilités étrangères, éventuellement de la France, et on sait que Emmanuel Macron a demandé à une équipe de chercheurs d'enquêter sur les archives dont dispose la France pour tenter d'évaluer, on verra le résultat que ça donnera, d'évaluer les responsabilités françaises. Mais ça veut dire en tout cas que la question se pose, et en fait, dans la question, une partie de la réponse est donnée. Donc oui, bien sûr, il y a des pays étrangers qui ont été responsables de ce génocide. Il y a des bien sûr, en premier lieu, des Rwandais qui ont été responsables de ce génocide. Et là encore une fois, je dirais que cette quête de justice, plus d'un quart de siècle après les faits, elle est rendue d'autant plus nécessaire que c'est une justice à rendre à ce que notre humanité considère comme l'incarnation la plus totale de l'innocence, et qui est l'enfant. Et il faut rappeler que dans les pogroms qui ont eu lieu après l'indépendance, le meurtre des enfants n'était pas systématique comme il l'a été en 94. Ce qui a rendu le meurtre des enfants systématique et même était devenu une obligation pour les tueurs, c'est que l'apparition d'une rébellion à majorité tutsi en 1990, qui étaient les enfants de ceux qui avaient échappé au précédent pogrom, faisait dire aux chefs d'orchestre de la solution finale de 94 que cette fois-ci, il ne fallait absolument pas épargner les enfants, parce qu'ils risquaient de revenir dans 20 ans venger leurs parents ou tenter de réclamer leur droit de revenir au pays, ce qui était la demande originelle du Front patriotique rwandais à sa création en 90. Donc ces témoignages, il faut aussi les lire dans le sens que ceux qui ont survécu et témoignent étaient des cibles privilégiées des tueurs. Et donc ils n'en prennent que plus de valeur.
Merci beaucoup, Maria Malagadis, pour cette lecture du livre d'Hélène Dumas, dont je rappelle le titre, Sans ciel ni terre, un livre qui paraît à la découverte. On trouve la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission ou la télécharger en podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Manuel Couturier, à la réalisation Marie Placé. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.